réplique Peut-on vieillir heureux avec Pascal Bruckner et Robert Heidecker. Ce qui caractérise notre époque, écrit Robert Heidecker dans son livre au titre provoquant « Bienheureuse vieillesse », c'est l'éclipse de la vieillesse, non comme âge ou état, comme réalité, mais comme présence dans la vie collective et dans l'imaginaire. Nous allons, dans la mesure de nos moyens, tenter de remédier à cette situation avec Robert Heidecker et Pascal Bruckner, qui publie ces jours-ci « Une brève éternité, philosophie de la longévité ». La vieillesse sera donc présente, non seulement du fait de l'âge canonique des trois personnes réunies dans ce studio, mais parce que ces personnes vénérables s'interrogeront sur la signification et la valeur de la scène finale de l'existence. Je partirai d'un souvenir personnel. Mon beau-père, qui faisait face, sans jamais se plaindre, à toutes les agressions du temps, avait coutume de me dire « Alain ne vieillit pas ». Je n'ai pas su, hélas, suivre ce judicieux conseil. Et je vous demanderai, pour commencer, de m'aider à me réconcilier avec mon destin. Est-il possible de voir dans la vieillesse qui vient autre chose qu'une diminution d'être ou qu'un catalogue d'inconvénients? Pascal Bruckner.
Alors, cher Alain, je ne suis pas sûr de pouvoir vous réconcilier avec votre destin, mais je vais essayer de répondre en mon nom propre à cette question. Les désastres que suscite la vieillesse sont tellement évidents qu'il n'y a pas besoin de les énumérer. Mais si on se contente de ce constat, on oublie simplement une chose, et c'est là-dessus qu'évidemment que porte mon livre, c'est qu'on vit de plus en plus vieux et de mieux en mieux, puisque précisément la vie s'est rallongée. Dans un livre paru en 66, l'historien Philippe Goubert, consacré au siècle de Louis XIV, explique qu'à l'époque, les Français mouraient à 26 ans et que le cimetière était au centre du village, comme la mort était au centre de la vie. Dieu merci, nous n'en sommes plus là. Nous avons gagné de 20 à 35 ans d'espérance de vie supplémentaire en relativement bonne santé. Et c'est ce que l'appelle l'été indien de la vie, c'est-à-dire que pour répondre à la question « Peut-on vieillir sans inconvénient ?», je crois que ce que nous vivons aujourd'hui, et pour moi c'est quand même un cadeau inespéré, même si on le verra plus tard, c'est un cadeau ambivalent, un cadeau ambigu. Nous avons repoussé la vieillesse dans les dernières saisons de la vie. Autrefois, elle intervenait à 50, 60 ou 70 ans. Aujourd'hui, la vieillesse proprement dite, c'est-à-dire l'état de décrépitude physique, commence peut-être entre 75 et 80 ans pour une majorité de gens. Mais en tout cas, pour moi, c'est un progrès inestimable et dont j'espère bien bénéficier.
Avant de donner la parole à Robert Heidecker, j'aimerais quand même revenir sur les statistiques que vous avez cité. D'ailleurs, dans votre livre, Pascal, vous dites que la vieillesse commençait il y a deux siècles à la trentaine. Là, je m'inscris en faux. Il est vrai qu'il y avait une très forte mortalité infantile, qu'on pouvait mourir des maladies aujourd'hui facilement curables, il n'y avait pas d'antibiotiques, qu'il y avait les morts dans des guerres continuelles. Mais la vieillesse, c'était la vieillesse, dès Cicéron. Quand Cicéron parle de la vieillesse de Platon, par exemple, c'était 80 ans. Et je voudrais vous citer La Bruyère. Je trouve ça très intéressant, vous parlez du siècle de Louis XIV. Eh bien, il disait de ce N, qu'il ne nommait pas, est moins affaibli par l'âge que par la maladie, car il ne passe point 68 ans. Donc 68 ans, ça ne lui paraissait pas extrêmement vieux. La vieillesse, pour nos aïeux, c'était la même chose que pour nous. Ça commençait vers 70 ou 75 ans. Alors, rares étaient ceux qui atteignaient cet âge, mais quand on pensait à la vieillesse, c'est exactement dans les mêmes termes que nous et avec la même vision de l'âge, Pascal Bruckner.
Oui, mais si on pense à la femme de 30 ans de Balzac qui déjà s'éteint tout doucement et arrive dans l'automne de sa vie, si on pense à un autre texte de Balzac où il dit voir rentrer dans un salon un auguste vieillard de 50 ans, on s'aperçoit que le curseur s'est quand même déplacé. Nous bénéficions quand même d'un avantage dû au progrès de la médecine, de l'hygiène, que nous ne devrions pas sous-estimer, même s'il a un prix. Mais malgré tout, le fait que nous soyons là aujourd'hui, tous les trois, à nos âges canoniques, comme l'a dit Alain, capables de parler de notre état, je ne suis pas sûr qu'au XVIIe, au XVIIIe ou au XIXe siècle, une telle réunion aurait été possible. Donc, ma position est très claire. Je souhaite, comme beaucoup de gens, tirer le maximum d'avantage de cette condition entre la vieillesse et la maturité, et je remercie la Providence de m'accorder des années supplémentaires. Pour moi, c'est un cadeau magnifique.
Et Montaigne, dans la cinquantaine, se plaignait de son âge. Montaigne parle de la vieillesse, se plaignant des ans qui pèsent sur lui autour de 50 ans. Donc tous les trois, nous sommes des survivants statistiques et des pionniers en même temps, je crois. Il y a des pionniers d'une humanité nouvelle qui n'a jamais connu en très grand nombre. Bon, tout à l'heure, nous citions des exceptions, nous disions ce sont des exceptions, qui n'a jamais connu en très grand nombre autant de personnes atteignant des âges pareils. La question que posait Alain Finkielkraut, c'était celle des inconvénients. Certes, ils existent, mais je crois que l'on peut faire ressortir aussi les avantages de la vieillesse. Et ce que j'aimerais faire ressortir ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux que vous faites ressortir dans votre livre. Et je crois que là, nous nous retrouvons un peu en tête bêche, en étant d'accord, mais en même temps au revers l'un de l'autre. Voilà. Dans ce que vous voyez comme inconvénient, comme décrépitude, je peux voir aussi des avantages et des belles choses. Et inversement, dans ce que vous voyez comme les moyens qui nous donnent une survie en bonne santé, on peut voir également, j'essaie de le mettre en évidence, des éléments des civilisations, enfin des choses plutôt très négatives.
Oui, mais vous passez peut-être un peu vite sur les inconvénients quand même, parce que je pense à ce texte de Simone de Beauvoir que vous citez, Pascal Bruckner, et qui est quand même magnifique à la fin de La force des choses, où elle fait l'énumération de tous ces
oui, plus jamais un plus. Homme, c'est ça.
Oui, le moment est arrivé de dire jamais plus. Ce n'est pas moi qui me détache de mes anciens bonheurs, ce sont eux qui se détachent de moi. Les chemins de montagne se refusent à mes pieds. Jamais plus je ne m'écroulerai, grisé de fatigue dans l'odeur du foin. Jamais plus je ne me glisserai solitaire sur la neige du matin. Jamais plus un homme. Alors, il n'y a jamais plus un homme, mais il y a tous les jamais plus de la vie, si vous voulez.
C'est un très beau texte. Mais derrière les jamais plus, il y a enfin autre chose. Enfin, des. Alors certes, ce sont des souffrances, mais aussi probablement des joies que je n'ai jamais connues. Dire, si l'on voit la vieillesse comme une fin, comme un horizon qui tombe derrière lequel, enfin que l'on ne peut plus, après lequel on ne peut plus courir, je crois que la messe est dite. Il me semble que, y compris dans l'extrême souffrance, nous pouvons avoir des expériences d'humanité que nous n'aurions pas sans elle. Voilà, ça c'est le premier point. Et très rapidement, un second, également, dans la vieillesse est toujours résurrectionnelle. Avec le temps libre qu'elle nous offre, de nombreuses tendances que nous avions, de nombreuses choses que nous voulions faire, le quotidien pesait sur nous, et au moment de la vieillesse, cela ressuscite. Il y a une énergie qui ressuscite, comme des fleurs qui renaissent.
Pascal Bruckner.
Oui, alors quand Simone de Beauvoir écrit ce texte, en fait elle n'est pas vieille du tout. Au regard de notre actualité, elle doit avoir entre 50 et 60 ans. Et déjà à l'époque, donc le temps pèse sur elle, la fatigue, l'épuisement physique. Et c'est ça qui rend ce texte poignant. Et bien entendu qu'en vieillissant, nous avons déjà méplu. Il y a un certain nombre de choses auxquelles nous devons renoncer, notamment les exploits physiques sont terminés. Se mettre au saut à l'élastique à 60, 70 ans, ça n'est pas raisonnable. Donc la vieillesse est un partage entre un certain nombre d'options. Il y a ce qu'il est déraisonnable de désirer, ce qu'il est permis d'espérer et ce qu'il est important de sauvegarder. Je pense que tous les jours, nous faisons un arbitrage entre ces trois postulations et c'est ainsi que nous pouvons progresser dans le temps tout en sachant évidemment que la fin est là, est irréversible et que la nature, si elle est notre maître, elle reste notre maître. Elle n'est plus notre guide et c'est peut-être ça qui a changé par rapport au siècle précédent, c'est que au siècle précédent on se courbait devant la fatalité parce que cette loi-là était absolument indépassable. Aujourd'hui, nous avons les moyens non pas de la détruire, mais de la contourner et ce contournement me paraît quand même une chose assez précieuse.
Oui, et nous allons voir en quoi peut consister ce contournement, mais encore un mot personnel. Puisque vous écrivez « Bienheureuse vieillesse », Robert Heidegger. Je ne peux pas dire que je sois malheureux en dépit de tous les malheurs de notre temps, et notamment de ceux qui accablent notre infortuné pays. J'ai beaucoup de chance dans ma vie. Je ne dirais pas une chance de cocu, parce que j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse. Mais la vieillesse, ou son approche, ne m'apporte rien. La maturité m'a apporté quelque chose. J'ai été plus intelligent, plus averti de la complexité des choses, plus porté sur l'humour et l'auto-ironie, plus ouvert au monde et aux autres, à 40 ou 50 ans, qu'à 18 ou 20. Mais la vieillesse, ce ne sont que des manques que la médecine réussit plus ou moins à pallier. Si je suis heureux, ou quand je suis heureux, ce n'est pas parce que je vieillis, mais bien que j'ai de l'arthrose. Alors que me répondez-vous pour me donner un peu de tonus ?
Je crois que l'on peut établir deux différences. Bienheureuse n'est pas tout à fait heureuse. Hein. Mais dans toute l'existence, heureuse, le bonheur, c'est quelque chose qui est destiné à s'éloigner en permanence. C'est-à-dire, donc cela suppose le temps que nous ne rattrapons jamais, et l'effondrement de l'horizon, c'est-à-dire il n'y a de bonheur possible que, soyons conscients, hein, il n'y a de bonheur possible que dans l'au-delà. Et cela, le vieillard et la vieillarde doivent le savoir. Par contre, je rapproche bienheureuse de joyeuse, de la joie. Au contraire du bonheur, qui suppose une temporalité que l'on n'atteint jamais. La joie, c'est le contraire de cette temporalité, c'est un peu comme l'intuition bergsonienne, c'est dans l'instant. C'est le temps qui se referme sur lui-même. Je crois que la vieillesse, à tout moment, peut apporter des joies. Donc on ne peut pas être heureux de la vieillesse, mais une vieillesse joyeuse, avec des instants discontinus de joie, voilà ce que nous pouvons vivre jusqu'au dernier moment. Et puisque vous étiez à évoquer un souvenir personnel, eh bien...
Non, un souvenir, une réalité personnelle.
Une réalité. Je peux évoquer le décès de ma mère, il y a quelques mois, avec la joie présente, alors qu'elle était, qu'elle s'abandonnait, la joie présente le dernier jour et même la dernière heure. Là, rayonnante au moment de partir. Rayonnante d'une certaine joie. Mais ça, c'est l'instant fermé sur lui-même qui n'a pas de suite, l'instant de la joie.
Alors là, je vais être d'accord avec Robert Heidegger. Alain, je pense que la vieillesse apporte quand même deux avantages, en dépit de toutes les souffrances physiques, le corps qui grince, les muscles qui se rouillent, les organes qui se détériorent. Bon, tout ça, on le connaît, c'est largement documenté et relaté, mais quand même vieillir, c'est malgré tout rentrer dans l'ordre de la nuance. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on envie la jeunesse, les jeunes sont beaux, les jeunes sont dynamiques, ils ont une énergie débordante, mais ils sont dogmatiques, mais ils sont égarés aussi, ils ne savent pas exactement quel chemin prendre. Quand même vieillir, c'est d'abord avoir surmonté un certain nombre de maladies et d'épreuves qui fait que nous voyons parfois comme des survivants. Nous avons traversé de longues années et ça peut être quand même vu comme un exploit. Et puis je crois aussi que l'avantage d'arriver à un certain moment de sa vie, c'est qu'on sait départager beaucoup mieux l'essentiel de l'accessoire. C'est-à-dire que quand on est jeune, et presque jusqu'à 40-50 ans, on s'égare dans des chemins de traverse. On s'éprend de fausses idoles. On adopte des idées erronées. Et tout d'un coup, quand on est peut-être sexagénaire ou septuagénaire, on départage mieux les choses. Et cette lucidité qui est due à, évidemment, un long exercice de la pensée et un long exercice de l'existence, me paraît être l'un des très rares, mais quand même certains, avantages de la vieillesse.
Je croyais plutôt, moi, que c'était un avantage de la maturité, il me semblait.
Mais la maturité arrive très tard aujourd'hui, c'est ça. Nous restons des enfants jusqu'à 60 ans.
Et il est vrai que notre génération, c'est celle qui a apporté l'adolescence éternelle. Il y avait les âges de la vie, il n'y en a plus qu'un. Et nous en sommes tous les témoins et peut-être aussi les protagonistes. Alain Souchon sort un disque à 75 ans.
Avec ses fils, oui.
Oui, et on le voit sur les photos, à la télévision, etc. C'est un éternel adolescent. Et peut-être, dois-je dire, moi aussi, que je suis peut-être un éternel adolescent, mais quand même, il me semble que j'ai acquis une certaine sagesse à la maturité et que la vieillesse, c'est pas tout à fait la même chose. Cela étant, j'entends ce que vous dites, mais et Robert Edeker, vous demandez la parole.
Je pense que cet aspect tout à fait magnifique de la vieillesse dont parle Pascal Bruckner est très lié à la découverte de plus en plus pressante que nous avons de notre finitude, au savoir que la mort est là, toute proche. Et le fait que la mort soit là, toute proche, nous rend plus forts pour choisir, nous rend plus forts pour distinguer l'accessoire de l'essentiel. Et cela nous procure beaucoup de joie. Donc là, c'est un des apports de la mortalité qui approche. De notre côté, vous parliez du vieux sage, mais le vieux fou, cela existe aussi, qui devient monomaniaque, obsédé par une seule idée, probablement fausse. Donc d'un côté, c'est la nuance, le vieux sage, mais de l'autre côté, le vieux fou est une réalité, le vieux fou insupportable, acariâtre. Y compris le malade imaginaire qui n'est pas si, il lui ressemble, est une réalité également, une réalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus triste.
Oui, alors il y a une autre réalité que nous aborderons tout à l'heure, mais là où je vous rejoins tous les deux, c'est sur la présence, pour le coup, dans notre monde, la présence autorisée de la gérontophobie. On fait la chasse à toutes les phobies aujourd'hui. L'islamophobie, bien sûr, l'homophobie, la transphobie,
la grossophobie,
l'adophobie, c'est un terme qui a été forgé tout récemment par Gérard Miller pour désigner ceux qui ne participaient pas à l'enthousiasme organisé autour de Greta Thunberg, et il les traitait, du haut de sa jeunesse éternelle, de vieilles badernes. On connaît aussi un peu moins, mais ça existe, la glottophobie, certains linguistes désignent ainsi, la discrimination à l'égard de la langue de l'autre. Et la langue de l'autre, c'est les manières de parler qui ne se conforment pas au bon usage et même aux règles de la grammaire. En revanche, la gérontophobie bénéficie des faveurs, notamment de ceux qui usurpent le nom d'humoriste et qui sont les amuseurs dont il est difficile d'éviter aujourd'hui les sketchs. Ces amuseurs, très vigilants quant à toutes les phobies, s'enchantent de la vieillesse ridicule. Je me souviens des guignols de l'info. Alors, à période de plus grande gloire, ils ne présentaient Valéry Giscard d'Estaing que comme un vieillard sénile. Or, il a atteint un grand âge, il n'est pas sénile. Et je me souviens aussi de la réaction d'une chroniqueuse à la déclaration de l'Académie française selon laquelle l'écriture inclusive faisait peser un péril mortel à la langue. Elle a dit, cette chroniqueuse, que le seul péril mortel à l'Académie, c'est la prostate de ses membres. Et ça a fait beaucoup rire. Donc là, je m'interroge, d'où vient cette présence de la gérontophobie. Pourquoi cette phobie est-elle autorisée, est-elle légitime, alors que toutes les autres sont pourchassées de manière impitoyable et sans doute juste?
Alors, dans l'histoire de la littérature et du théâtre, c'est un petit ruisseau qui existe depuis très longtemps, mais qui n'a pas l'importance aujourd'hui, où les deux aspects sont toujours maintenus. Enfin, on peut, chez Molière, trouver des antécédents, ce dont nous sommes en train de parler. Enfin, la gérontophobie, c'est donc la peur, étymologiquement, mais la haine aussi.
La haine de
la vieillesse. Mais c'est très lié dans cette affaire, la peur et la haine. C'est la peur de soi-même devenir comme ce qui est désigné du doigt comme étant l'altérité. Comme étant l'altérité par rapport à tous les modèles anthropologiques que l'on nous offre en permanence à imiter. C'est-à-dire l'altérité par rapport à la jeunesse, à la vitalité. Donc on se trompe sans doute aussi sur l'idée de vitalité lorsque l'on pointe du doigt cette altérité. Donc, alors il me semble que gérontophobie, c'est la marque d'une société désormais sans autre. Voilà. C'est-à-dire d'une société où toutes les normes, et d'ailleurs c'est même plus de normes qu'il faudrait parler, de conformisme, voilà, où tous les conformismes se referment sur lui-même et où il devient impossible d'être un peu en dehors de ce conformisme. Et être vieux, ça l'est. Parce que finalement, lorsque vous êtes vieux, eh bien, vous ne pouvez plus pratiquer tout ce que l'on valorise. Vous ne correspondez plus alors l'image du sportif, enfin tout ce que vous voulez, du cadre dynamique, de tout ce que vous voulez. Vous ne correspondez plus à tout cela. Bon, de notre côté, comme il me semble que nous sommes des sociétés qui ont fermé l'avenir, des sociétés qui ne pensent plus à l'avenir, la vieillesse représente la caricature de ça, puisqu'elle est sans avenir. Et si l'on reconnaît à la vieillesse sa valeur, eh bien, l'on donne de... On se retourne sur... la société se retourne sur elle-même et est contrainte de voir qu'elle est une société qui a perdu toute pensée de l'avenir. Il me semble que dans la question de la gérontophobie, il y a la question du rapport à l'avenir.
Mais vous dites aussi qu'il y a la question du rapport au passé, puisque vous dites que la vieillesse est dangereuse pour l'ordre social, libéral, planétaire. Elle représente ce que cet ordre refoule, c'est-à-dire la transmission, l'héritage, l'ancienneté, l'autorité du passé, la longue durée.
Et c'est Malraux, ça aussi. Le livre de Malraux sur De Gaulle qui a suscité en moi ces remarques-là. Donc, c'est le refoulement du passé et en même temps le refoulement de l'avenir. C'est le rapport au temps qui est parfaitement perturbé par c'est pas le développement de la gérontophobie, c'est la gérontophobie comme climat général de la civilisation.
Alors je pense que la peur de la vieillesse est aussi vieille que la civilisation. Les témoignages, Robert Redeker le disait à l'instant, les témoignages dans la littérature sont innombrables. Pour moquer les vieux, on moque leur existence, on moque leurs prétentions. Le vieux beau, la vieille coquette qui veulent encore séduire font l'objet de multiples railleries. Et Théophile Deviau parle à propos d'une vieille, d'un sac d'os fétide. Donc tout est dit dès l'ancien régime, et je pense que à travers cette phobie, il y a évidemment la panique, car les personnes âgées représentent pour les jeunes ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils ne veulent pas devenir. Et effectivement, il y a une altérité chez le vieillard ou la vieille femme, mais cette altérité, elle est en nous. C'est-à-dire qu'au fond, quand on vieillit, qu'on se regarde dans le miroir, on ne se reconnaît plus. Qui est cet homme qui me regarde chaque matin dans la glace? C'est moi, je suis devenu autre que celui que j'étais, et cette altérité qui est à l'intérieur de moi me panique et m'horrifie d'une certaine façon. Alors simplement, pour apporter une nuance, tout à l'heure Robert Redeker disait que nous étions des pionniers, un peu moins quand même qu'il y a 50 ans, puisque en 2060, selon les démographes, les plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Et ça veut donc dire que numériquement, les seniors vont être la classe majoritaire. Et à partir de ce moment-là, ils auront un pouvoir de décision politique et économique beaucoup plus fort que les jeunes. Et puis, puisque l'on parle de gérontophobie, il ne faut pas oublier aussi la gérontophilie, car quand même cela existe, il y a aussi toute une fraction dans la population qui sont ce que j'appelle des goûteurs de crépuscule, c'est-à-dire des gens qui apprécient la compagnie des hommes ou des femmes âgées. Cela se voit par exemple dans les EHPAD, au niveau du dévouement des soignants ou des soignantes, qui est un dévouement quand même relativement admirable. Et moi, quand mes parents étaient soignés à l'hôpital, je dois dire que je ne tarissais pas d'éloges sur le personnel, sur la patience, face à des malades qui sont des malades difficiles. Donc, cette gérontophobie qui est réelle peut aussi s'inverser. Et au fond, finalement, le fait pour les jeunes générations de voir que la vieillesse n'est pas qu'une longue allée de ténèbres et de malheurs peut lui rendre cet état aussi plus désirable.
Voilà,
je crois qu'il y a deux régimes de la gérontophobie. Celui dont parlait Pascal Bruckner, c'était une gérontophobie littéraire, un topos littéraire qui remonte à Aristophane, sans doute, peut-être même encore avant Aristophane. Et il y a un changement qualitatif, dans la mesure où nous avons affaire aussi à une gérontophobie qui est sociale, sociopolitique, hein, quelque chose comme ça, et que l'on remarque dans la volonté de paraître jeune, ainsi de suite. Nuance, la gérontophilie existe également. Je ne tarie pas d'éloges pour les personnes qui, dans un hôpital, sont occupées des 3 derniers mois de ma mère.
Bien, mais je voudrais revenir sur justement ce que vous écrivez, Robert Redeker, de cet ordre social qui refoule l'héritage et ou l'autorité, et qui, pour cette raison-là, ne fait aucune place dans son imaginaire à la vieillesse. Parce que, certes, la durée de vie s'allonge. Je persiste à dire qu'on est vieux au même âge qu'autrefois, sauf qu'autrefois, on était beaucoup moins souvent vieux, et maintenant, on vous dit, les bébés féminins qui naissent aujourd'hui, eh bien, elles ont toutes les chances d'atteindre 90 ans. Et vient de paraître le livre de Bruno Dubois, du professeur Bruno Dubois, qui nous explique qu'à 90 ans, vous avez une chance sur deux d'être atteint de la maladie d'Alzheimer. Il vous dit, on connaît de mieux en mieux le cerveau, mais on ne trouve pas de thérapie. Or, qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer ? C'est une vieillesse inhéritière, oublieuse, enfermée dans l'indifférence. C'est une situation absolument terrible. C'est asthénie d'abord, difficulté de concentration, ralentissement intellectuel. Voilà tous les échelons de la dégradation neurologique. Comme le dit Anne Lorbock dans un article du Débat, c'est une neurochirurgienne que vous citez, Pascal Bruckner. Et c'est maintenant notre peur à tous, non pas la phobie au sens de haine, mais la peur. Autrement dit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la peur de la fin de vie l'emporte sur la peur de la fin de la vie. On peut apprivoiser la mort, on peut toiser la mort. Les philosophies peuvent éventuellement nous apprendre à mourir, bien que, effectivement, la croyance dans l'au-delà se perde et que nous soyons difficilement consolables. Mais la fin de vie, c'est pas possible. Et donc, c'est aussi ça, la vieillesse. C'est pour nous de guetter sans cesse les premiers symptômes. J'oublie ce nom. Je cherche mes clés. Ben voilà, c'est peut-être l'Alzheimer. Et moi, je sais que, par exemple, le premier test de l'Alzheimer, c'est de savoir dessiner un cube. Depuis que je sais que c'est ça, je n'ai plus jamais dessiné un cube. Je sais même pas si je sais, mais je veux pas le savoir. Donc, si vous voulez, nous vivons dans cette hantise, et cela change les choses. Heidegger dit « être pour la mort ». Bon, nous sommes des êtres, peut-être des êtres pour l'Alzheimer. Et ça, c'est évidemment quelque chose de terrible.
Nous transformons, mais je serai très rapide, ni le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face, ni le soleil ni Alzheimer ne peuvent se regarder en face.
Voilà, exactement.
Bien entendu, la vieillesse est un chemin semé d'embûches diverses, mais si on vieillit en se disant qu'on risque de tomber dans toutes les maladies, le cancer... la sclérose, l'Alzheimer ou d'autres, je crains que nous ne soyons effectivement prêts à nous gâcher la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, de toute façon, ces maladies, la maladie nous accompagne tout au long de l'existence. Mais il est vrai qu'elle est le salaire de la longévité. Car cette révolution démographique que nous vivons, elle a un prix. Je le dis tout au long du livre, le prix, c'est qu'effectivement, en vieillissant, nous devenons comme ces vieilles guimbardes que l'on doit rafistoler en permanence, dont on doit changer les pneus, les freins, la transmission. Il y a évidemment un domaine sur lequel, pour l'instant, la médecine reste impuissante, c'est le cerveau. J'en discutais l'autre jour avec un neurologue de la Pitié-Salpêtrière, mais il m'assurait que la thérapie génique allait peut-être bientôt venir à bout d'un certain nombre de ces affections terribles. Et je le souhaite. Simplement, il y a quelque chose de tragique dans notre appréhension de la maladie et que je rapporte aux malades du sida. Ceux qui sont nés avant l'invention des thérapies, des trithérapies, donc sont morts sont morts du sida, en sachant que quelques années plus tard, peut-être ils auraient pu vivre 10 ou 20 ans de plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est terrible, la mort est un contretemps. J'arrive trop tard et la médecine aura inventé peut-être le remède qui aurait pu me donner un souffle nouveau. Mais ce qui est vrai, c'est que la terreur de la vieillesse, et là, Alain, je vous rejoins, ça n'est pas de savoir que nous allons mourir, ça on pourra peut-être en reparler, c'est la dépendance, c'est d'être la proie d'autrui, c'est d'être tout d'un coup un légume, c'est de devenir un zombie. Or, nous savons tous que dans une existence, nous avons eu des moments d'automate, nous avons eu des moments où nous étions absents à nous-mêmes, où nous n'étions pas maîtres de notre destin, mais savoir que peut-être demain ou après-demain, c'est ce qui va nous échoir, est évidemment terrifiant. D'où le contrat que chacun doit passer avec lui-même et avec ses proches. Suis-je prêt à endurer cet état, ou alors suis-je prêt à demander à ceux que j'aime de ne pas me faire vivre au-delà de cette période tragique?
Alors, oui. En même temps,
alors, Robert Heidegger, là-dessus, vous n'êtes pas d'accord parce que vous avez des mots très sévères, oui, sur l'euthanasie.
Oui, il y a une illusion de la médecine et de la technique. Pascal nous dit bien que nous ne guérirons jamais de la mort. Et peut-être des maladies qui nous approchent de la mort, nous éloignons le moment. C'est quelque chose d'infini. Mais pour je voudrais prendre au revers ce que vous avez dit tout à l'heure sur Alzheimer. Évidemment, c'est une perspective effroyable, en particulier pour nous autres modernes, dont toute l'existence repose sur le moi, c'est-à-dire le moi découvert par Descartes, centre du monde, et ce moi qui se perd et qui devient une chose, un zombie, magnifique page sur les zombies dans votre livre, bon, qui devient un zombie, que lui arrive-t-il? Eh bien, il est obligé de s'abandonner. Je suis un objet, je m'abandonne à quoi? Au dévouement et à l'amour des autres, dont je ne suis même plus capable de me rendre compte. Et il me semble que cela, j'hésite souvent entre dois-je attraper Alzheimer ou partir avant. Mais l'amour de ceux qui se dévouent pour moi, lorsque je ne suis plus qu'un zombie, c'est aussi quelque chose de beau, semble-t-il.
Oui, mais quand même, cet amour lui-même est bouleversé par cet événement, parce que vous aimez une personne et cette personne n'est plus elle-même. Et l'Alzheimer et toutes les démences séniles durent très longtemps. Et certaines personnes aimantes sont amenées à faire leur deuil du vivant de la personne qu'elles aiment. Et ça, c'est absolument terrible. Et là, vous avez des mots très durs contre l'euthanasie. Mais là, je rejoins Pascal Bruckner, qui cite, à mon avis, à très juste titre, dans Une brève éternité, le cas d'Hugo Claus, l'écrivain belge qui était atteint de la maladie d'Alzheimer, qui a vécu avec ça, et puis il s'en rendait compte que sa vie se détériorait de plus en plus. Il s'est rendu, vêtu de son meilleur costume, à l'hôpital de Middelheim, à Anvers, en compagnie de sa femme et d'une amie éditrice. Ils ont sabré le champagne, Et voilà, on lui a fait la piqûre. En Suisse, c'est pas l'euthanasie, c'est le suicide assisté, mais c'est un peu la même chose. Et je trouve, si vous voulez, que ce désir très légitime, c'est-à-dire l'euthanasie comme demande sociale, qui risque de venir aujourd'hui, parce que la vieillesse coûte de plus en plus cher. C'est terrible, il faut y résister. Mais l'euthanasie comme demande individuelle, c'est, me semble-t-il, quelque chose de très légitime. À condition de ne pas dire qu'il s'agit de mourir dans la dignité, parce que les personnes faibles ne sont pas des personnes indignes. Donc cette expression est très malheureuse. Mais on retire cette expression, et je me dis, moi, je me console à l'avance, en me disant que si je n'arrive évidemment pas à dessiner un cube, et qu'on me dise, bah voilà, vous avez la maladie d'Alzheimer, puisque les éthiciens, quand ils disent, poussent les médecins à dire l'exacte vérité, alors que je puisse moi-même décider de mon sort et de ce que je veux ou non infliger aux miens.
C'est le livre de le magnifique livre de Michel Malherbe, voilà, la question, qui est un philosophe, et donc c'est le la rencontre entre le philosophe et la maladie d'Alzheimer de sa femme. Alors comme c'est quand même un philosophe du sujet moderne, donc c'est la question de la personne, dire ma femme qui devient quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, est-ce encore une personne ? La question que pose Alzheimer, c'est ça, c'est la question de la personne humaine. Alors pour ce qui est, moi, beaucoup de choses me gênent, mais c'est théoriquement en fait, ce sont des aspects théoriques dans l'euthanasie, en particulier la question de la volonté de néant.
Pascal Meutner.
Effectivement, l'euthanasie ne peut pas être établi au niveau d'une loi, parce que les risques d'abus sont innombrables. On pourra faire supprimer ses parents ou des gens indésirables au motif qu'ils ont dépassé leur date de péremption. Mais pour soi-même, je crois effectivement tout à fait utile de que cela soit possible. D'abord parce qu'on ne veut pas être à la charge des générations qui viennent. Et le spectacle de la déchéance du père ou de la mère qu'on a aimé est quand même un spectacle assez terrible. Et je comprends parfaitement qu'on soit en faveur de cette solution si elle est décidée en toute lucidité et si elle a été discutée avec toute la famille. Donc je pense que la déchéance physique et mentale est bien pire que la mort, parce qu'après tout, ce que la mort a de terrible, ça n'est pas ma propre mort, c'est la mort des gens que j'aime. La mort des gens que j'aime est une chose atroce, insupportable, c'est un scandale ontologique. Mais ma mort n'est qu'une très désagréable formalité que l'on peut anticiper, par exemple, lorsque on se fait opérer, qu'on subit une anesthésie. Là, on se dit, finalement, ça pourrait être mon dernier souffle, ça pourrait être le grand départ. Mais la mort des autres est vraiment quelque chose d'intolérable. C'est vraiment le scandale métaphysique par excellence. Et donc, c'est à cela qu'il faut penser.
D'accord, mais il ne faut pas oublier ou laisser de côté dans l'ombre ou occulter l'ambiguïté qui est le faux altruisme de l'euthanasie. C'est-à-dire, ce dont on veut se débarrasser, c'est tout autant la personne dont on souhaite le trépas que la souffrance, que les souffrances de cette personne induisent en nous. C'est-à-dire, on veut en quelque sorte être libéré d'un poids par la mort de l'autre. Et c'est la part d'ombre du désir d'euthanasie qu'il ne faut jamais occulter, qu'il faut prendre en compte.
Oui, alors, je voudrais vous citer, pour en terminer sur ce sujet, une phrase de George Steiner, qui risque de vous faire bondir, Robert Heidegger. Il est inconcevable que l'on puisse garder en vie, malgré eux, ceux qui n'ont plus pour seul espoir que de quitter la vie. Cela me semble, dit-il, d'un sadisme affreux. Quelquefois, en effet, vous le demandez à un médecin, vous-même, et celui-ci, au nom du serment d'Hippocrate, vous le refuse, alors même qu'il n'a pas les moyens de vous guérir.
Oui, la médecine étant une nouvelle religion, on pouvait demander autrefois à Dieu de nous débarrasser de la vie. Aujourd'hui, on le demande aux médecins.
Ben oui, parce que parfois, on ne peut pas faire autrement. Mais là, je voudrais en venir à un autre sujet. En fait, vous êtes, Robert Heidegger, un disciple de Cicéron qui nous apprend comment vieillir dans son célèbre De Senectute. Et il dit, finalement, c'est vrai, quand on est vieux, la volupté, c'est fini. pour un certain nombre de gens. Et son caton l'ancien, puisqu'il fait parler, dit mais c'est merveilleux parce que la concupiscence, finalement, c'est un fardeau et c'est une passion déplorable qui n'a rien à voir avec la vertu. Et vous vous dites, ben, après tout, finalement, oui, il y a un bonheur éventuel de la chasteté et surtout, vous êtes extrêmement sévère pour le Viagra. Je voudrais savoir pourquoi cette sévérité. Alors,
sévère. Bon, l'Église catholique, au contraire de Descartes, a bien compris dès le début que le lieu où l'âme et le corps se croisent, ce n'est pas la glande pinéale, c'est la sexualité. Voilà. Depuis Saint Augustin, même avant Saint Augustin, c'est ça. La sexualité, c'est véritablement l'endroit où l'âme et le corps s'attachent l'un à l'autre. Et donc, cela implique le trouble. Cela implique le. On ne sait pas, comme dans toute aventure amoureuse. Cela peut impliquer. La faiblesse, des choses comme ça. Donc tout le côté troublant, au fond, de la sexualité. Et le raisonnement du corps humain, le raisonnement technique, au sens heideggerien, de la technique du corps humain, par la médecine, réduit cette part de trouble et finalement nous fait oublier ou élément probable de déchristianisation, que la sexualité, c'est vraiment le nœud, l'endroit où le corps et l'âme se nouent.
Ben voilà, mais alors pourquoi les dénouer quand on peut ne pas le faire ? Pascal Bruckner.
Oui, moi je pense, en écoutant Robert Descartes, je pense à une phrase de Saint Augustin, je crois, dans les Confessions, « Mon Dieu, accordez-moi la chasteté, mais pas tout de suite. Oui. » Et je trouve que c'est exactement ce qu'on se dit quand on vieillit. Pourquoi accepterions-nous de devenir chaste si la médecine, le Viagra pour les hommes, mais aussi les traitements hormonaux pour les femmes à l'âge de la ménopause, nous permet de connaître encore pendant quelques années les joies du plaisir. Or, ce n'est pas simplement la sexualité aussi, c'est le sentiment, lorsque l'on fait l'amour, de rester vivant, c'est-à-dire d'être des êtres d'épanouissement. Vous connaissez la phrase qui doit vous faire bondir, Robert Edeker, de Jane Fonda, « J'ai 74 ans, je n'ai jamais connu une vie sexuelle aussi épanouie ». Alors, je ne sais pas si c'est... Il faut la croire sur parole, c'est Jane Fonda, et on l'a beaucoup aimée, mais effectivement, le désir, c'est pas simplement l'érotisme. Le désir s'adresse à l'être tout entier, c'est-à-dire c'est un appétit pour tout ce qui existe en soi et qui va au-delà du simple exercice de l'étreinte amoureuse. Et donc, le contraire de la sexualité, me semble-t-il, ça n'est pas la chasteté, c'est le dégoût de vivre. Et c'est ça, quand tout d'un coup votre corps ne répond plus à aucune stimulation, vous manquez ou vous perdez une dimension essentielle de la vie.
Voilà, parce que la conception du désir que vous développez, je crois qu'elle n'est pas forcément articulable avec le Viagra, c'est l'éros. C'est l'éros platonicien, c'est-à-dire ce grand courant de vie qui nous traverse de la naissance à la mort et qui prend des formes multiples, la sexualité étant l'une de ces formes.
Oui, mais alors, j'aime bien ce que dit Pascal Bruckner sur l'étreinte amoureuse, parce que l'amour ne va pas sans étreinte. Et je voudrais vous lire un passage de La Tâche de Philippe Roth. Coleman Silk, il est vieux, Coleman Silk, il a plus de 70 ans. Et il explique à Nathan Zuckerman qu'il vient de rencontrer Fania Forley, qui a 34 ans. Et ça le console de tous ses problèmes, de tous ses malheurs, parce que sa femme est morte, notamment à cause de la persécution que le politiquement correct lui fait subir. Et il dit « Je prends du Viagra, Nathan. Toute cette turbulence, ce bonheur, je les dois au Viagra. Sans le Viagra, je ne vivrai rien de tout ça. Sans le Viagra, j'aurai une image du monde appropriée à mon âge et des intentions toutes différentes. Sans le Viagra, j'aurai la dignité d'un vieux monsieur libéré du désir et qui se conduit comme il faut. Je ne serai pas en train de faire quelque chose d'insensé. Je ne serai pas en train de faire quelque chose d'inconvenant, de téméraire, qui m'attire de l'opprobre et qui risque d'être désastreux pour toutes les personnes concernées. Sans le Viagra, je continuerai sur le déclin de mon âge, à entretenir la largeur de vue détachée d'un homme de culture et d'expérience, qui a pris sa retraite à l'issue de bons et loyaux services, après avoir longtemps renoncé au plaisir de la chair. Grâce au Viagra, je viens de comprendre les transformations amoureuses de Zeus. C'est comme ça qu'on aurait dû l'appeler le Viagra du Zeus. C'est alors, magnifique. L'homme ne doit pas se prendre pour Dieu, mais qu'il ait le privilège des dieux de l'Olympe, parfois certains, pourquoi pas.
C'est un magnifique passage anti-cicéronien, c'est oui. Évident. Mais il faut quand même comprendre les réticences que l'on peut avoir lorsqu'il est question de l'emprise de la technique et de la mécanisation du désir humain.
D'autant que Cicéron, au moment où il écrivait ses pages, était lui-même, je crois, amoureux d'une jeune fille de 14 ans qu'il a publia, qu'il a épousée. Donc, il faut toujours se méfier quand les personnes d'un certain âge vous disent qu'elles sont affranchies de toute pulsion et qu'elles surmontent désormais l'univers désordonné des sens. En général, il y a un petit cadavre dans le placard, mais puisque vous citiez Alain-Philippe Ross, je pense à un passage du livre de Lisa Hallyday. Donc cette jeune femme américaine, ce jeune auteur qui a été la maîtresse de Philip Ross quand elle avait 23 ans et lui en avait plus de 70, elle raconte très joliment, c'est un passage un peu indécent mais qui est assez touchant, que lorsqu'ils étaient allongés dans un lit, elle allait sous les couvertures, elle lui a prodigué ses soins et elle disait, il en sortait une petite fontaine d'eau tiède. Et bon, le mot est ce qu'il est, il est trivial, mais en même temps, voilà, oui, il peut y avoir une certaine beauté dans l'étreinte jusqu'au terme. Et après tout, pourquoi se refuser ses plaisirs? Puisque de toute façon, nous le savons, il n'y a pas d'après. Il n'y a rien après la mort. Bon, les religions essaient de nous consoler. Mais comme disait l'autre, personne n'est revenu de l'au-delà pour nous dire que le voyage en valait la peine.
Et l'on peut également faire référence à ce magnifique dernier texte de Chateaubriand qui s'appelle Un dernier amour.
Que vous citez.
Voilà. Et c'est un amour qu'il... Alors c'est le contraire de ce dont nous venons de parler. Que c'est un amour qu'il refuse. Mais je me méfie de Chateaubriand et je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce texte.
Oui, Chateaubriand, oui. C'est un très grand auteur, mais c'est pas forcément la sincérité absolue qui le caractérise. Alors, pour aller une dernière fois dans le sens de Pascal Bruckner, il y a quelque chose qui a vraiment changé. Vous citiez la femme de 30 ans. Et en effet, on pensait qu'après 30 ans, une femme, c'était fini. Or, moi, je me souviens du film « Ma saison préférée » de d'André Téchiné avec Catherine Deneuve. Elle avait 50 ans, je crois. Elle était éblouissante. Elle était rayonnante, elle n'avait jamais été aussi belle. Et on a l'impression que les femmes gagnent des décennies. La Bruyère, encore une fois, les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par les artifices qu'elles croient servir à les rendre belles. Ça vaut pour certaines actions trop invasives de la chirurgie esthétique aujourd'hui. Pas toutes, hein. Il y a une chirurgie esthétique discrète, il y en a une autre qui est un massacre. Mais cela ne vaut pas pour les crèmes, les onguents, les pommades que les femmes utilisent et qui, en effet, les rendent très belles à un âge que l'on aurait pensé, justement, autrefois, là, pour le coup, canonique. Et ça, c'est une des merveilles, un des bienfaits du temps présent. Pascal Bruckner, vous êtes d'accord avec moi, là?
Oui, je suis tout à fait d'accord et je me garderai bien de lancer la moindre diatribe contre les femmes de 50, 60 ou plus, contrairement à d'autres, car je trouve que ce que l'on gagne avec l'âge aussi, et ça c'est important, c'est la faculté d'indulgence, c'est-à-dire que l'indulgence que l'on manifeste vis-à-vis des autres, c'est aussi une indulgence que l'on demande aux autres de manifester vis-à-vis de nous. Alors s'il y a des tragédies de la chirurgie esthétique, des coups de bistouri absolument catastrophiques, et on voit ça même sur la tête de nos dirigeants, là, je voyais récemment Poutine et j'ai l'impression qu'il a subi un sacré injonction de Botox sur le tard. Mais globalement, c'est vrai que la médecine, quand elle est appropriée, permet aux gens de se tenir, l'exercice physique, le sport. Et donc, sur ce plan-là, encore une fois, nous avons gagné un sursis. Et qu'est-ce que c'est que le sursis? C'est laisser la porte ouverte à tous les possibles. Passer la cinquantaine, nous entrons dans un âge équivoque entre la grâce et l'effondrement. Et ce qui est tout à fait frappant chez les êtres que nous aimons, c'est de constater à quel point les parties du corps ne vieillissent pas toutes à la même vitesse. Il y a les rides apparaissent, les cheveux grisonnent, mais il y a des certaines parties du corps qui restent étonnamment jeunes et dans lesquelles on retrouve la beauté ou l'élan des années antérieures. Et donc moi, je trouve que c'est un miracle que l'on puisse encore célébrer l'amour passé 60, 70, 80 ans. J'ai vu mon propre père tomber amoureux à 80 ans passés. Quels que soient les griefs que j'avais contre lui, j'ai encouragé cette passion finale parce que c'est quand même la certitude de ne pas me vivre seul, vieillir seul et de pouvoir partager encore des moments merveilleux avec une personne dont pour moi, c'est vraiment une conquête tangible.
Oui, on pourrait parler de la longévité croissante des coureurs cyclistes. Horner gagnant le Tour d'Espagne à 42 ans. Mais je voulais insister sur... En fait, il y a deux cosmétiques. Voilà. Il y a une cosmétique qui est une façon de maquiller pour exalter la beauté, pour articuler la beauté d'une femme à la beauté de l'univers. Mais il y a une autre cosmétique aussi qui sert à cacher l'avancée de la mort et qui a un petit rapport avec la thanatopraxie. Le côté sombre de cette deuxième cosmétique, c'est évidemment, nous avons des difficultés à accepter ce que nous sommes. Donc il y a une négation de soi à accepter ce que nous devenons.
Alors, est-ce qu'on acceptera mieux au terme de cette émission? En tout cas, je vous remercie l'un et l'autre. Béret Descaires, votre livre « Bienheureuse vieillesse » a été publié aux éditions du Rocher. Pascal Bruckner, vous faites paraître « Une brève éternité, philosophie de la longévité » chez Grasset. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Les enjeux de la bioéthique ». Mes invités sont Sylvia Nagasinski et Frédéric Worms. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Sébastien Royer, dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.